Gloire à Dieu, nous continuons, nous sommes presque à la fin de notre livre extraordinaire, Cantique des Cantiques, Shir HaShirim. Le plus beau des cantiques, le meilleur, le plus grand des cantiques, on pourrait l'appeler aussi comme ça. Nous en sommes au chapitre 6. Donc dans le chapitre 5, nous avons vu la bien-aimée qui peut représenter le chrétien, l'Église du Seigneur, ou Israël, la minorité juste d'Israël. Nous avons vu la bien-aimée dans une forme d'assoupissement et de négligence de sa relation avec le bien-aimé. Et elle était comme endormie, et le bien-aimé frappait, elle a négligé, elle s'est dit, mais dois-je salir encore mes pieds, changer de vêtements pour aller ouvrir. Donc elle a préféré rester dans son lit, dans son confort. Voilà, le christianisme d'aujourd'hui, beaucoup ne se réveillent pas pour ouvrir la porte au Seigneur. Nous avons dit que Apocalypse 3:20 concernait les chrétiens. Je me tiens à la porte, je frappe. Et Dieu frappe à la porte de beaucoup de chrétiens qui préfèrent garder leur confort. Ils ne veulent pas se faire violence, ils ne veulent pas changer leurs habitudes, changer, bouleverser, vivre des bouleversements pour le Seigneur. Ils veulent les choses stables, cadrées, et du coup, ils restent dans le lit. Et à un moment donné, elle se lève, voyant vraiment l'insistance du bien-aimé, elle se lève, mais le bien-aimé est parti. Et nous avions expliqué que Dieu permet cela afin qu'il y ait la réciproque, donc la même chose de notre part, qu'il y ait un feu, une envie d'aller vers lui, afin que la boucle soit bouclée, que ce ne soit pas un amour à sens unique, mais à double sens. Et elle se met à le chercher, mais malheureusement, elle cherche dans les mauvais endroits et des malheurs lui arrivent jusqu'à ce que, comme elle cherchait vraiment le Seigneur, elle l'a trouvé. Cela représente tous ceux qui, d'une certaine manière, ont reçu cette soif-là de Dieu, ou bien de retour à Dieu, mais après qui se sont accrochés à de mauvaises branches. Si ces personnes sont sincères, elles finissent par trouver la vérité. Voilà, donc nous ne devons pas nous inquiéter par rapport à tous ceux qui sont dans l'erreur, parce que les sincères parmi eux finissent par trouver Dieu, comme la bien-aimée a fini par trouver le bien-aimé. Et maintenant, pendant qu'elle cherche, les gens ont vu son insistance, sa soif à chercher le bien-aimé. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? Et nous avons vu une présentation extraordinaire du bien-aimé par la bien-aimée. Et nous pouvons en faire de même pour le Seigneur Jésus. C'est pourquoi il y a tant de chants sur Jésus, parce qu'il y a tant de choses à dire sur lui, sur sa bonté, son amour, sa sainteté, sa vérité. Moi, souvent, quand je pense qu'il a fait 24 heures sur 24 sans péché, donc c'est extraordinaire, c'est plus beau que le diamant. Donc comment quelqu'un peut respirer, vivre 24 heures sur 24 pendant plus de 30 ans sans péché une seule fois? C'est une merveille, rien que de penser. Quand nous pensons qu'il a ressuscité Lazare après 4 jours, nous redresser le dos d'une femme dont le dos était courbé, cela faisait 18 ans. Nous sommes émerveillés. Le Seigneur est merveilleux. Et il est beau, il est bon, il est puissant, il est glorieux. Et c'est ce que la bien-aimée a défendu. Et finalement, nous sommes au chapitre 6. Donc avant de commencer le chapitre 6, nous allons prendre plutôt Luc 24, voir un exemple de ce que nous venons de décrire, l'assoupissement. Et puis, une forme de réveil, donc c'est dans le cas des disciples d'Emmaüs. Une forme de réveil et puis le Seigneur qui disparaît. Et nous lisons cela à partir du verset 13. Luc 24, à partir du verset 13.
Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village, nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtaient, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os.
Voilà, nous pouvons nous arrêter là. Voyez, c'est ce qui s'est passé pour ces disciples d'Emmaüs qui s'étaient comme assoupis. Jésus était devenu comme un souvenir pour eux. Et en chemin, ils étaient dans une forme d'abattement, d'assoupissement. Et le Seigneur leur paraît, mais ils ne reconnaissent pas, et ils discutent avec eux. Normalement, cette discussion devait les réveiller aussi. Nous voyons combien beaucoup d'enfants de Dieu résistent à Dieu sans... Nous ne disons pas que Dieu leur est apparu comme un ange lumineux, parce que quand c'est comme ça, qui va dire que ce n'est pas Dieu? Mais c'est fait exprès ainsi, pour susciter ce qui est profond en nous. Parce que si Dieu paraissait comme un ange de 5 mètres, tout le monde dirait Dieu est là. Voilà. Mais là, c'est fait exprès pour bâtir quelque chose de profond en nous. Notre socle ne doit pas être une manifestation lumineuse. Notre socle doit être les Écritures, la parole de Dieu, la vérité. Et c'est ce que Dieu veut faire quand il fait que nous ne puissions pas voir des choses extraordinaires. Il veut que nous soyons bâtis sur ce qui est profond, sur sa parole. Mais il est toujours extraordinaire, il est tout puissant. Mais il veut fonder notre foi à nous sur ce qui vient de sa parole. Et donc, là, Jésus leur parle, mais comme eux-mêmes ils disent, nous sentions notre cœur brûler, mais bon, ils n'ont pas quand même cédé jusqu'à ce que le Seigneur coupe le pain et disparaisse. Et donc, quand il disparaît, c'est là qu'il se réveille, dit, mais oh là là, le bien-aimé était là. Et ils ont commencé à le chercher pour aller finalement le trouver ensemble avec les amis. Jésus leur paraît. Voilà, c'est extraordinaire de voir combien la Bible est cohérente. C'est comme si les parties de la Bible se répètent. Ce que nous venons de lire dans Cantique des Cantiques, c'est ce que nous venons de lire dans Luc 24. Et il paraît et il s'intéresse. Après, il disparaît et c'est toi maintenant qui commences à le chercher. Parce qu'ils allaient, n'est-ce pas, ils allaient à Emmaüs, mais ils ont rebroussé chemin. Ils n'ont plus continué. Ils ont commencé. Leur intérêt pour le Seigneur est revenu. Donc du coup, ils ont annulé même leur voyage pour retourner voir les autres, chercher en quelque sorte le Seigneur. Et c'est la même chose. Il peut y avoir des moments d'assoupissement, de fatigue ou spirituelle où nous négligeons le Seigneur. Et le Seigneur va quand même venir frapper, comme il dit dans l'Apocalypse 3:20. C'est là que nous voyons une fois de plus la cohérence de la Bible. Dans Cantique, il frappe. De la même manière dans l'Apocalypse 3:20, il va venir frapper. Il frappe. Il parle, comme aux disciples d'Emmaüs, mais nous traînons.
Maintenant, nous passons au chapitre 6, où
chercher et finir par retrouver le bien-aimé. Comme dans Luc 24, leur cœur a chauffé, ils ont commencé à chercher, et puis ils vont le retrouver ensemble avec les amis. Et ça nous rappelle, ça nous fait penser à l'Église qui tombe dans un certain sommeil spirituel, comme les 5 vierges sages. Voilà, les 10 sont tombés dans le sommeil spirituel, mais les sages se sont réveillés quand même. Vous voyez, donc les histoires de la Bible se ressemblent. Voilà. Les 5, malgré le sommeil, parce que toutes elles se sont endormies, mais les sages se sont réveillés et ont retrouvé l'époux. C'est la même chose. Donc à un moment donné, les vrais de Dieu vont se réveiller, même s'ils sont endormis. Le Saint-Esprit va les secouer, comme dans Ézéchiel 37. Encore une autre histoire où les ossements desséchés se réveillent. Et il y a maintenant les retrouvailles avec le bien-aimé. Nous lisons chapitre 6.
Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le cherchons avec toi. Nous le chercherons avec toi. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi.
Amen, amen. Voilà, donc on lui dit, mais où est allé ton
bien-aimé ? Amen, amen. Voilà, donc on lui dit, mais où est allé ton bien-aimé ? Pareil, oh la plus belle des femmes, de quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé ? Nous le chercherons avec toi. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? Donc, quand les enfants de Dieu, quand l'Église, quand le reste d'Israël retrouve Dieu dans le cœur, ils vont susciter une envie à tout le monde de voir qui est ce bien-aimé finalement. C'est ce qui est prophétisé dans Isaïe 2. Dans Isaïe 2, il est dit que dans les temps de la fin, la parole sortira de Sion. Donc il y aura un reste d'Israël qui créera une soif à l'humanité entière de trouver le bien-aimé. C'est ce qui est écrit aussi concernant l'Église. À la fin, les vrais chrétiens se lèveront et créeront une forme de réveil. Dieu fera une sorte de réveil par leur soif à eux. Les gens chercheront Dieu. Donc Dieu a préparé un petit troupeau, un reste qui, à un moment donné, va déclarer la grandeur de Dieu et va donner envie. Maintenant, c'est ce travail-là qui se fait actuellement dans l'Église universelle où nous sommes comme assoupis. Dieu est en train de préparer de vrais, en cachette, dans la simplicité de la parole. À un moment donné, ils vont se réveiller avec une très très grande soif de Dieu, très grande soif de proclamer sa grandeur, et beaucoup, beaucoup s'intéresseront à connaître le Seigneur en ce moment. Vous voyez que l'élément le plus important, ce ne sont pas les miracles. L'élément le plus important, c'est la soif des vrais chrétiens pour Dieu. La soif des vrais chrétiens pour Dieu va toucher beaucoup plus les gens que les miracles en eux-mêmes. Les miracles attirent, mais font de la pub, mais ils changent pas les gens. La soif des bien-aimés du Seigneur, à l'exemple des amis de Daniel. Hein, l'histoire des amis de Daniel comporte deux éléments. Le miracle extraordinaire de ne pas brûler dans le feu, mais c'est pas moi qui le dis. Le roi lui-même le dit. Il dit que ces gens ont eu tellement foi en leur Dieu qu'ils ont préféré brûler. Parce que le roi, il est resté sur l'avant-miracle pour dire, mais je ne comprends pas comment ces gens ont préféré brûler plutôt que de renier leur Dieu. C'est l'élément déterminant qui a transformé le roi. Mais que le roi soit impressionné par les miracles, nous n'en disconvenons pas. Mais qu'il soit transformé, cela a été dû à la manifestation de la foi des amis de Daniel. Il a considéré que ces gens-là savaient que Dieu était réel. Et du coup, il est vraiment réel, parce qu'ils l'ont manifesté en allant dans le feu. Donc la soif des vrais chrétiens, leur détermination, j'en cite souvent des exemples là. Certains païens, quand ils voient, ils disent, mais non, c'est pas normal que ce monsieur que nous pouvions tuer, à qui on a laissé la vie sauve, revienne pour rendre de l'argent, son propre argent, prétendant qu'il n'a pas dit la vérité, mais d'où lui vient une telle sainteté? Voilà. Le comportement, le fruit de l'esprit, la soif des chrétiens apportera la transformation des païens. Mais les miracles pourront toujours attirer, mais ça peut être un spectacle et puis ça passe. Hein. L'exemple le plus simple, hein, le parfait même, c'est celui de Jésus. Hein. Quand Jésus quitte cette terre, il y a peu de disciples. Peu de disciples. Mais pourtant, quel miracle il n'a pas fait. Il y a peu de disciples. L'exemple le plus simple, c'est son exemple à lui-même. Peu de disciples. 120 environ. Mais les miracles, il y en avait combien? Voilà. Donc, mais c'est la détermination. Lui-même, il a dit, quand le Saint-Esprit vous utilisera, les gens, vous serez mes témoins. Au fait, être témoin est plus fort que faire des miracles. Voilà. Parce que être témoin, c'est manifester soi-même Christ. Et c'est puissant. Comme les amis de Daniel, ils ont manifesté Dieu. Et voilà, le témoignage de la bien-aimée fait que les autres s'intéressent maintenant à connaître le bien-aimé. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Voilà, toujours dans la simplicité. Mon bien-aimé se trouve dans l'endroit de simplicité. Et je suis attaché à lui, peu importe où il est. Je cherche pas sa gloire, être glorieux, mais je cherche à être avec le bien-aimé, même au milieu des lys. C'est ce que la bien-aimée avoue. La vraie église sera avec Jésus en prison, dans un palais royal, dans la rue, comme dans le désert. Voilà, la vraie église cherche le bien-aimé. Ne cherche pas ce que le bien-aimé donne, l'argent, l'or, la popularité, le succès, les miracles. Non, la vraie église, les vrais chrétiens cherchent le bien-aimé lui-même. Et c'est ce que la bien-aimée manifeste. Voilà, nous passons au verset 4.
Tu es belle, mon ami, comme Tirsa. agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, suspendus au flanc de Galad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis, qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reines, 80 concubines, et de jeunes sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent.
Voilà, ce que dit le bien-aimé. Salomon avait plusieurs femmes de toutes sortes. Il dit, mais il n'y a que la Sulamite qui est spéciale. Voilà. Et au milieu de tout ce que Dieu a fait de beau, que ce soit en pays, en plantes, en humains, en bijoux, en argent, tout ce que vous voulez, ce que Dieu trouve le plus beau, c'est l'Église. C'est l'enfant de Dieu. Il est écrit même dans Jacques que Dieu aime à la jalousie l'esprit qu'il a mis en nous. Donc l'esprit qui est en, son esprit qui est en nous, nous rend très très beau à ses yeux. Voilà. Ce que nous disons là, c'est les Écritures en parlent de plusieurs manières. Il n'y a qu'une seule, c'est l'Église du Seigneur. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Et c'est écrit dans Apocalypse 3. Qu'est-ce qui est écrit? Nous allons lire ça dans Apocalypse 3 à partir du verset 8. Bien aimé, ça sont des vérités essentielles, capitales, éternelles. Il faut serrer ça dans son cœur. L'avenir n'est pas simple. L'avenir est compliqué. Il y a toutes sortes de pièges, toutes sortes de tentations, toutes sortes de choses dans le monde. Certaines vérités nous aideront à garder la ligne, comme celle qu'on va lire là, l'Apocalypse 3, 8, à partir du verset 8.
Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé.
Voilà. Ce que nous lisons dans Cantique, voilà son parallèle. Il parle à l'église de Philadelphie. Il dit, ô église de Philadelphie, tu parais peu puissante, insignifiante, mais tu as gardé ma parole. Tu es belle à mes yeux, plus belle que n'importe quelle création ici sur terre. Il dit, mais et cette église de Philadelphie, ce sont les chrétiens qui ne cherchent pas autre chose que Jésus lui-même, que la Bible elle-même. Voilà. Ils ne sont pas parfaits, mais comme nous avions dit dimanche ou un autre jour, leurs objectifs, eux, sont parfaits. Voilà. Nous pouvons être imparfaits, mais avoir des objectifs parfaits. Ce sont ces enfants de Dieu-là qui n'ont que pour seul objectif ressembler à Jésus, vivre avec lui, comme la bien-aimée. C'est le bien-aimé qui l'intéresse, c'est tout. Ce n'est pas le reste, ce que le bien-aimé peut donner, c'est ressembler à Jésus, accepter sa parole dans la simplicité. Et ça donnera l'impression, une impression de faiblesse au regard des autres qui cherchent le bling-bling et à qui Dieu peut donner pour leur égarement ou Satan peut donner aussi pour leur égarement et qui se satisfont de ce bling-bling, de cette apparence glorieuse fabriquée par eux-mêmes ou bien forcée par eux. Alors que le bien-aimé véritable, lui, se contente de la présence du bien-aimé et c'est tout. Que Jésus soit là. Ça lui suffit. Que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, ça suffit. Que Jésus m'aime, cela suffit. Et ces gens-là, ils paraissent insignifiants. ils paraissent perdre leur temps au regard des autres. Dire, ah oui, lui, toujours avec son Jésus. Lui ne parle que de Jésus. C'est la Bible, mais on ne voit rien du tout. Voilà, c'est ce qui est écrit dans Apocalypse 3. Mais les gens disent que tu as peu de puissance. Mais comme tu as gardé ma parole, je t'ai ouvert une porte. Bien-aimé, il viendra un temps où Dieu ouvrira une porte visible à tous. Les gens reconnaîtront les vrais. Ce n'est pas moi qui le dis, nous le disons Apocalypse 3, mais c'est écrit aussi dans Malachie. Il viendra un temps où il se fera la différence entre ceux qui prient dans la vérité et les autres. Mais pendant un certain temps qui peut paraître long, les gens de vérité auront l'impression d'être les derniers, mais ils s'en contenteront tant qu'ils sont avec le maître. Tant qu'ils baignent dans la parole, tant qu'ils vivent avec le maître, ils acceptent n'importe quelle place. Mais Dieu promet que ce n'est pas leur place. Il viendra un temps où ça sera clair et ceux-là de la synagogue du diable viendront se prosterner. Ils reconnaîtront que Dieu est avec ceux-là. Donc c'est ce qui est écrit dans Cantique, ils reconnaîtront que Dieu est avec l'Église de vrais chrétiens. C'est ce qui est écrit, les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Viendra un moment où les milliardaires, les gens les plus beaux, les stars, quand ils verront la vraie Église dans la gloire de Dieu, ils reconnaîtront que ça, c'est l'équipe la meilleure. Ils reconnaîtront ça. Un jour, il y aura cette mise au point claire qui se fera. Voilà, nous continuons vers...
Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière? Je suis descendu au jardin des noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. Je ne sais, mais mon désir m'a rendu semblable au char de mon noble peuple.
Amen. Voilà, Dieu, non seulement il juge l'Église belle, mais il juge l'Église puissante. C'est écrit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Hein, psaume 68, 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et psaume 60, verset 14, avec Dieu nous ferons des exploits. Et Dieu est content de voir les exploits de ses enfants, mais que lui-même fait en réalité. Mais c'est entre les mains de ses enfants. C'est écrit notamment dans, peut-être que c'est mieux qu'on le lise, dans Éphésiens 3, 10. Nous allons lire Éphésiens 3, 10.
Éphésiens 3, verset 10. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur.
Voilà. Il dit, les forces des ténèbres vont voir que Dieu est grand à travers l'Église. Ils ne vont pas comprendre. Hein, vous savez, comme un dessin animé qui passait autrefois, ça s'appelait fourmi atomique. Donc c'est une petite fourmi qui arrive à transporter un immeuble. Donc les démons ne vont pas comprendre qu'un petit chrétien de 15 ans les chasse et il fuit. Ça, c'est l'honneur de Dieu. Dit, mais attends, je ne vais pas m'occuper de vous. Je vais envoyer mes enfants, vous allez voir. C'est ça, Éphésiens 3, 10. Dieu leur dit, attendez, moi-même je vais rien faire. C'est mes enfants qui vont s'occuper de vous. C'est écrit aussi dans Psaume 127, hein, celui qui a des enfants très tôt, eh bien, il sera dans la joie quand les ennemis frapperont à la porte. C'est les enfants qui iront. Parce qu'entre-temps, ils seraient devenus des costauds. Voilà. C'est ça, Dieu. Dieu nous a armés de son esprit pour que, en tant qu'enfants adultes, nous parlons de lui et nous parlions de lui avec force et assurance et que nous terrassions ses ennemis. Lui, il est tout puissant. Il ne veut pas. C'est trop facile qu'il les affronte. Il va leur montrer qu'ils sont rien du tout en utilisant des petits comme nous. Des petits comme nous. J'aime l'histoire de cette fille qui faisait la queue en Côte d'Ivoire pour acheter des beignets. Et pendant qu'elle faisait la queue, c'était une fille d'un serviteur de Dieu. Pendant qu'elle faisait la queue, elle chantait en même temps les chansons du Seigneur. Et quand elle s'est rapprochée d'une certaine dame qui était à côté de la commerçante, eh bien, la dame a commencé à s'agiter, les esprits ont commencé à s'agiter en elle. Et la fille s'est souvenue comment son papa chassait les esprits. Elle dit, mais ça c'est des esprits, vous sortez au nom de Jésus. Et ils sont sortis, une fille peut-être de 10 ans. Et ils sont sortis, ils ont fui. C'est ce qui est écrit dans Ephésiens 3, 10. Dieu montrera sa grandeur en utilisant des petits. Quelqu'un comme une fourmi qui triomphe d'un éléphant. Mais c'est ce que Dieu va faire. Pour leur montrer combien il est grand, il va se servir de nous. C'est une joie pour Dieu que nous fassions des exploits. C'est même une plus grande joie pour lui que pour nous. Quoi. Et malheureusement, beaucoup, au lieu de penser à cela, ils pensent à eux-mêmes. « Ah, j'ai fait quelque chose. Tu n'as rien fait. C'est Dieu qui a fait à travers toi. » Rends gloire à Dieu et surtout pense à sa joie. Lui, il est content que ce soit toi qui triomphe des forces des ténèbres. Comme ça, il leur montre combien lui, il est grand. Lui, il n'agit pas, il envoie son petit, quoi. Et ça veut dire que si moi-même je faisais, ça serait comment? Et comme il a dit à Satan, t'as vu mon serviteur Job? Ha, ce type-là ne me trahira jamais. C'est invéritable. C'est ce qui se passe avec nous tous. Il dit aux forces des ténèbres, un tel, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais il restera avec moi. C'est son honneur, mais c'est parce qu'il sait qu'il va t'aider puisque tu te confies en lui. C'est lui qui va faire, mais à travers toi. Et lui, il en est content de voir que c'est son fils qui défend son honneur. C'est pourquoi il a dit, vous serez mes témoins. Jésus aurait pu lui-même faire l'évangélisation. Quand il est ressuscité, il pouvait se déplacer, changer de lieu en plus que la vitesse, à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit, vous serez mes témoins. C'est à vous de prendre part aussi à cet honneur-là de travailler pour Dieu. C'est ça là, c'est ce qu'il dit. Il dit, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible, terrible comme des troupes sous leur bannière. L'Église est aussi terrible, les enfants de Dieu sont terribles. Israël a montré ça à plusieurs reprises face à des ennemis plus grands en nombre et en force. Voilà, nous continuons verset 11. Non, verset 11, après il va au jardin des noyers voir le résultat du travail du bien-aimé qui a été dans la vallée, planter les choses, et les vrais enfants de Dieu aiment à contempler les œuvres de leur père. Nous lisons maintenant le chapitre 7.
Reviens, reviens, Sulamite. Reviens, reviens, afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite? Comme une danse de deux cœurs. Que tes pieds sont beaux dans tes chaussures, fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment entouré de lys. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon, près de la porte de Bat-Rabim. Ton nez est comme la tour du Liban, qui regarde du côté de Damas. Ta tête est élevée comme le Carmel, et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par des boucles. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble aux palmiers et tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux, que tes seins comme tes seins sont, que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, et ta bouche comme un vin excellent.
Voilà la description extraordinaire que le bien-aimé fait de la bien-aimée pour encore nous montrer comment Dieu nous voit. C'est extraordinaire. Même, il n'y a pas que Dieu qui peut nous voir comme ça. Il y a des moments où nous-mêmes aussi, en observant le comportement de, certains chrétiens, nous sommes admiratifs, nous sommes contents de voir parfois la persévérance de certains chrétiens, l'amour de certains chrétiens. Ils sont, c'est plus beau que ce que les paysages. Les chrétiens sont plus beaux que les paysages, plus beaux que le diamant, plus beaux que les troupeaux de chèvres. Comme c'est expliqué là, quand nous les voyons dans leurs œuvres spirituelles, c'est extraordinaire. Et tu n'en reviens pas. Il y a des chrétiens, il y a un chrétien qui, Adoniram Judson, il est parti prêcher en Birmanie, loin là-bas, mais à un moment donné, la voix est partie. Donc, au fait, ton instrument de travail, tu ne l'as plus. On s'attendrait à ce que des gens comme ça renient le Seigneur, ne comprennent pas, se fâchent, mais non. Il a pris quelqu'un pour l'aider à traduire. Confiant de la puissance de Dieu qui n'a pas besoin de savoir lui. Quand on voit des actes comme ça, des gens qui manifestent une telle confiance, c'est plus beau que regarder un paysage. C'est plus beau que regarder une femme belle. C'est plus beau. C'est comme ça que on voit ces comparaisons. Dieu prend ces comparaisons, les villes, le corps, tout ça. Parce que ce sont des choses en général qui attirent les humains. Maintenant, il veut dire que quand tu observes la bien-aimée de Dieu, c'est plus que ça. Voilà. Je l'avais dit au début, nous avons des amours sur terre et Dieu veut montrer que l'amour pour lui est le meilleur. Voilà. Et c'est ce que nous lisons dans la description. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, nous allons écouter les questions et puis. Nous allons clôturer pour aujourd'hui parce que sinon ça finirait trop tôt. Donc on laisse la dernière partie pour mardi prochain.
Il y a des questions.
Nous allons clôturer pour aujourd'hui parce que sinon ça finirait trop tôt.
Donc d'accord. Donc il y a des questions plus qui sont hors contexte.
Ok.
Donc je prends première question. Donc, il y a un internaute qui voulait comprendre qu'est-ce que signifiait le verset dans Matthieu 7 quand on dit « l'entrée est étroite et le chemin resserré ». Elle met entre parenthèses « épreuve, combat, mort à soi-même ou autre ». Donc, il voulait comprendre...
Ça voulait dire tout simplement que quand nous devons aller vers le Seigneur, il y a peu de place à tout ce qui est, il n'y a pas de place à tout ce qui est charnel, à tout ce qui est de l'ordre du naturel. C'est Jésus seul. Moi, j'aime cette image-là, c'est que pour aller au ciel, il faut prendre un chemin par lequel ne peut passer qu'une seule personne, c'est-à-dire Jésus. Donc, tu passes par le même chemin, une seule personne peut passer, parce qu'une seule personne peut entrer au ciel, c'est Jésus. Donc pour que toi tu ailles au ciel, tu dois prendre le même chemin que lui, que tu sois à sa suite. Donc c'est une seule personne. C'est pour les païens, mais pour le chrétien, il nous est dit par le frère Paul et par le Seigneur lui-même dans Jean 16, 33, et le frère Paul dans Actes des Apôtres, je crois, au chapitre 12 ou 14, le Seigneur dit, vous aurez beaucoup de tribulations, mais ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Dès qu'on devient chrétien, la vie terrestre va devenir comme étroite pour nous. Voilà. Nous serons amenés à marcher dans un chemin étroit, loin de ceux qui corrompt le monde. Ça, c'est pour le chrétien. Mais ce n'est pas ça qui va sauver. C'est juste que c'est le chemin du chrétien. Ce n'est pas parce que nous traversons des tribulations, c'est ça qui nous sauve. Non, c'est Christ qui nous sauve gratuitement. Mais dès que nous devenons chrétiens, eh bien, notre chemin devient étroit. Donc, quand tout le monde se corrompt, quand tout le monde fait des compromis, nous ne sommes pas dans cela. Nous restons dans notre chemin clair, étroit, qui est lié à la parole de Dieu.
Deuxième question. Apocalypse 7, 4 et Apocalypse 14, verset 1, nous parlent d'un groupe de 144 000 personnes. Est-ce c'est le même groupe dans les deux versets? Parce que le premier verset parle des tribus de fils d'Israël et le deuxième parle des rachetés.
Bon, on aurait pu attendre, mais c'est loin quand même, Apocalypse, on va lire alors. Si on doit attendre d'étudier ça, la réponse traînera trop. Apocalypse 14, 1, c'est écrit, je regardais, voici l'agneau, se tenait sur la montagne de Sion. Oui, mais c'est la montagne de Sion, c'est le même groupe. Voilà. Donc, la montagne de Sion, c'est Israël, je crois.
Jusqu'à quel moment, en termes de mois, d'années, une femme peut encadrer ou enseigner les nouveaux convertis? Deuxièmement, quand peut-on considérer qu'un tel n'est plus un nouveau converti?
C'est au cas par cas. Je ne peux pas répondre à une telle question. La Bible ne répond pas à ça. Les gens comme les Jackie Pullinger et les Joan Shelter, elles ont prêché des hommes jusqu'à ce que le Saint-Esprit les a arrêtés. Donc, c'est le contexte qui va l'imposer. L'essentiel, c'est que nous soyons simples pour accepter le cheminement du Seigneur. Donc, quand... D'ailleurs, Joan Shelter, c'est elle-même qui avait demandé aux anciens Bangala de prendre sa place, de commencer à enseigner. C'est eux qui avaient refusé. Ils ont dit, non, nous, on a tout connu par toi. Nous attendons, nous refusons de prêcher. Mais comme ils l'aidaient dans la traduction de la Bible, ils sont arrivés au passage, justement, d'un Timothée 2. Eh bien, c'est là qu'eux-mêmes, en traduisant la Bible, ils ont lu, ils ont dit à Joan, bon, maintenant, nous pensons que nous devons maintenant à nous prendre la responsabilité de l'œuvre de Dieu ici. Toi, tu continues ton travail de traduction. Nous nous occuperons de prêcher et de paître le troupeau.
Donc, je crois que tu as répondu, mais c'est à peu près sa troisième question qui dit, s'il y a des hommes qui peuvent le faire, entre parenthèses encadrées, est-ce qu'on peut laisser encore à une femme cette tâche?
Mais c'est ce que je dis, donc quand les hommes sont là, donc ils peuvent le faire, et donc c'est les hommes qui vont le faire. Mais je reviens toujours pour dire, c'est la simplicité qui s'impose là, c'est pas des lois qui s'imposent. C'est rester à l'écoute de Dieu, faire les choses selon Dieu, c'est ça qui compte. Parce que les contextes sont parfois compliqués, qui peuvent faire que une femme peut nous aider et on refuse qu'elle nous aide par des principes. Non, à cause des principes, non. Je crois que le discernement là, du moment que nous sommes d'accord avec cette règle, nous fonctionnons selon le discernement du Seigneur.
Oui, une autre question. Que signifie le verset Jean 11, 8 à 9? J'ai pas encore.
Les disciples lui dirent, maître, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Ah oui, si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Voilà. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Il veut dire que pendant qu'il est dans sa lumière, dans le temps que Dieu lui a donné pour prêcher, faire des miracles, faire avancer l'œuvre de Dieu, il doit travailler. Il vient un temps où ça va être difficile. C'est après Gethsémané, il n'a plus fait ça. Voilà. Donc pendant qu'il fait jour, c'est le temps que Dieu te donne d'être fort, en bonne santé, avec une certaine puissance pour faire les choses. C'est le temps que Dieu te donne. Pendant qu'il fait jour, il faut travailler. Beaucoup, alors qu'ils sont dans leur jour, ils sont forts, ils ont la santé, ils ont la jeunesse, eh bien, ils se reposent. Et puis, quand maintenant, le corps ne va plus très bien répondre, Ça va, ah, mais si, moi, si j'étais comme les jeunes, j'aurais fait ceci. Mais oui, mais tu as été aussi jeune. Voilà. Y en a qui vont dire, ah, mais moi, si j'avais l'argent, j'aurais financé telle chose. Mais il y a eu un temps où tu avais l'argent. Tu étais dans ton jour, tu ne l'as pas fait. Voilà. Donc, le jour, c'est quand les moyens sont là, ben, il faut faire.
Si un pasteur demande à une sœur de prêcher durant un culte, est-ce correct?
Il faut pas, je ne veux pas donner des réponses qui vont créer des problèmes ailleurs, quoi. Voilà. Voilà. Donc, je pense que j'ai déjà répondu à cette affaire-là. La règle, c'est que la femme ne doit pas enseigner. Voilà. Donc, c'est, pour le reste, c'est au cas par cas. Moi, je peux pas répondre à une question particulière. Je ne suis pas à l'endroit et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Voilà. OK. Nous allons chanter Amoureux de mon âme. Donc aujourd'hui, Amoureux de mon âme. Et mardi prochain, nous allons rajouter à ce chant Sans Jésus. Sans Jésus. J'attends la suite. Bon, il n'y a pas la suite, donc vous allez chercher. Donc il y a beaucoup qui viennent assister à des réunions en touriste. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Voilà, donc mardi prochain, nous allons chanter ça. Donc il faut que chacun cherche. Je vous avais prévenu pour Amoureux de mon âme, donc j'espère que tout le monde va chanter. Et depuis que je dis là, il n'y a pas de mouvement. Nous voulons que tu nous attires dans tes voies. Nous voulons marcher avec toi, l'amoureux de notre âme, l'amour de notre vie, Seigneur. Car sans toi, le ciel est voilé, Seigneur. Loin de toi, nous sommes dans le flou. Nous voulons marcher dans la simplicité avec toi, comme l'église de Philadelphie, peut-être avec en apparence peu de puissance, mais partageant ton sort, partageant ton existence. Ô Seigneur, que tu sois véritablement notre amour à tous les niveaux. C'est ça notre prière solennelle. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.